n'y a pas besoin d'opposer la nature à l'économie, l'humain à l'économie, tout ça doit aller de pair.
J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut.
Seule la puissance d'un collectif permettra de relever les défis.
L'envers du décor, elle est très précieuse, ça vous apprend beaucoup sur les êtres et sur leur manière de se comporter.
Après, les questions s'arrêtent, on revient à son exercice, à son métier, quoi, et on fait ce qu'on doit faire.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 3 de Secrets de dirigeants. On connaît beaucoup de familles cathodiques, la famille idéale du prince de Bel Air ou celle de la petite maison dans la prairie. Et puis il y a celles comme les Roy de Succession ou les Wing de Dallas qui nous font beaucoup moins rêver. Mais en 2024, en France, nous avons une vraie famille qui séduit tout le monde, de 7 à bien plus de 77 ans et quel que soit son niveau de revenu. Ils ne sont ni avocats, ni magnats des médias ou du pétrole, mais ils travaillent dans l'immobilier. Et avec leur émission, l'agence, ils réunissent à chaque épisode plus de 800 000 téléspectateurs.
Olivier Kretz, fondateur et président de Kretz Family Real Estate.
La famille Kretz, c'est un peu comme un jeu des 7 familles. À l'antenne, il y a la grand-mère, la mère, le père et les 4 fils, et en coulisses, les neveux. Une histoire qui a débuté en 2007, lorsque le père Olivier décide de changer de métier.
On décide de changer de vie pour lui donner un sens. Parce qu'on pense qu'on n'a plus tellement de sens dans ce qu'on fait, donc on va essayer de retrouver un nouveau sens par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ses ambitions, son énergie, son entourage, énormément de facteurs.
C'est une décision difficile à prendre. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui hésitent à prendre cette décision ?
C'est une décision difficile à prendre, mais j'engage tous les gens qui commencent à cet âge-là à ressentir le besoin de se transformer, de le faire, et surtout de ne pas attendre, parce que plus on attend, plus c'est difficile, et plus on regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.
C'est du bonheur garanti à chaque fois ?
C'est quel que soit les événements qui arriveront après, c'est que du bonheur. C'est le sentiment de s'accomplir, surtout. Qui est un début de bonheur, en fait.
Le premier job, on le fait un peu par hasard. Le deuxième, on le choisit pertinemment en sachant quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, comment on va les utiliser.
On saisit des opportunités avec des promesses, des ambitions, mais aussi des risques et des choses qu'on n'arrive pas à voir tout de suite, qu'on découvre au fur et à mesure du parcours. Si on savait tout, on ferait rien.
Dans le livre que vous publiez aux éditions Fayard qui s'appelle « Bienvenue à l'agence », vous expliquez qu'au début, vous travaillez seul et ensuite, vous vous mettez à travailler en couple. Alors là, c'est la première difficulté. Travailler en couple, on peut se dire c'est génial, on est 24-24 ensemble, en plus vous travaillez à la maison, et à la fois, il faut quand même trouver chacun son territoire et pas non plus créer et multiplier les situations de conflit. C'est pas simple, le couple.
C'est pas simple du tout, et il faut vraiment voir s'il y a des complémentarités évidentes. C'est vraiment la première chose, et là c'était le cas, puisque Sandrine a été professeure, institutrice, décoratrice, et moi j'étais cadre dans une grosse société, donc on voit tout de suite que les compétences se complémentaient, et qu'il y avait un sens à travailler ensemble. Alors je dis pas qu'il y avait pas une zone potentiellement de conflit sur l'aspect commercial, mais en tout cas, il y avait les bases.
Et vous avez réussi à trouver chacun votre territoire et à vous développer dans chacun votre partie sans que ça vous frustre.
On a tout mis en commun, hein. C'est pas qu'on a, on faisait tout, tous les deux. Donc au début c'était ça, partager 100% de ce qu'on faisait, que ce soit commercial, technique ou autre. C'est comme ça qu'on a été plus fort, je pense, rapidement par rapport à d'autres qui travaillaient d'une manière complètement indépendante.
Ensuite, au fur et à mesure, vos 4 fils sont venus vous rejoindre. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre et surtout à faire 4 enfants, c'est les mêmes parents, mais c'est 4 personnes différentes. Il faut que chacun puisse s'épanouir, que chacun arrive à grandir par rapport à ce qu'il est lui. Et puis, il ne faut pas reproduire peut-être aussi dans l'entreprise le modèle de la famille.
D'abord, ils sont pas arrivés tous en même temps. Ils sont arrivés les uns après les autres, et puis d'une manière un petit peu distante. Le premier, Martin, qui est arrivé en premier, il avait déjà un petit peu travaillé dans une grosse boîte, mais il voyait que ce n'était pas fait pour lui, ce que j'ai raconté dans le livre. Et puis surtout, lui, il avait une école de commerce, marketing, grande école. Et puis, il a amené des techniques nouvelles. Moi, j'étais déjà un petit peu has-been sur l'aspect marketing, déjà. Hein, ça allait tellement vite. Hein, c'était... le début des réseaux sociaux. Hein. Donc lui, il est arrivé avec cette compétence, donc c'était génial. Hein. Il a une nouvelle pierre à l'édifice. Ensuite, 2 ou 3 ans après, Valentin, alors lui, c'était totalement différent, puisque lui, il était ingénieur. Tout de suite, là, la technologie est arrivée dans ce métier, il a lui aussi amené une pierre à l'édifice, donc c'était complémentaire à Martin. Ensuite, il y a eu Louis. Alors Louis, il est arrivé un peu plus tard, hein, 3 ou 4 ans. Lui, il avait moins d'études, mais plus d'expérience en service client, à travers l'hôtellerie, la restauration. Donc ça, c'est bien, parce qu'il s'occupait du back-office. Hein. Donc là, pareil, complémentaire, encore une pierre à l'édifice. Et puis Raphaël, le dernier. Ça, c'est beaucoup plus récent. Bah, lui...
Lui, pour le coup, il était déjà mordu.
Alors lui, il est tombé dans la soupe. Hein. Et...
il n'a pas eu le choix.
Lui c'est... tombé dans la potion magique.
Il
dans
a
la
fait
soupe.
Les études qui
voilà, et puis en plus, il fait les études d'immobilier, donc là, encore une fois, c'est complémentaire.
Est-ce que vous vous êtes dit, les 4 ensemble, plus nous 2, plus vos neveux, plus les belles-filles, puisque certaines travaillent directement et d'autres pas, est-ce que vous vous êtes dit, c'est un super méga risque?
J'ai tout de suite vu que tout ça était un super méga risque, mais qui ne tente rien. C'était super méga risque, mais super original. Et je me dis que si ça marchait, que ça allait être super bien.
C'est marrant parce que vous avez reconstruit une entreprise. Vous avez construit une entreprise familiale. Quand vous étiez enfant, vous avez vu votre père qui travaillait avec votre oncle dans une entreprise familiale et qui, lui, l'a très mal vécu.
Exactement, mais c'était une autre époque où tout était vertical et cloisonné, on peut dire, alors qu'aujourd'hui, tout est horizontal. Puis aussi peut-être une question de... Bah, peut-être que mon oncle aurait peut-être pu faire mieux les choses.
Oui, ce qu'on comprend dans le livre, il a l'air d'être assez dur avec votre
et
père.
Voilà, et c'est vrai que ça m'a inspiré quand j'étais tout petit d'observer ça. Je me suis dit, il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Il faut faire l'inverse.
Est-ce que le fait de connaître tout le monde, ça fait gagner du temps?
Quand il y a une connivence.
Ouais, presque de la télépathie ou en tout cas une connaissance tellement
importante. Une connivence, ils se connaissent tellement bien qu'ils savent à peu près ce que les gens pensent. Même si la question n'est pas posée ouvertement, c'est vrai que c'est magnifique. Et je pense que notre organisation familiale, où les gens... en fait, il y a de l'amour, parce que c'est ça, en fait. Il y a de l'amour déjà, beaucoup d'amour. Sandrine et moi, c'est 40 ans de mariage. Avec les enfants, déjà, quand il y a ça dans une organisation, bah, ça change complètement, parce qu'on ne va pas faire de mal aux autres. On va pas... Voilà, on essaye d'être...
Et en même temps, on sait quelles sont les marges de manœuvre. Ça va être limite, mais ça peut passer quand même.
C'est ça. Donc, en fait, tout se coordonne d'une manière naturelle. On essaie d'être cool, en fait, dans notre manière de fonctionner, notre manière de management. Voilà. Et puis surtout, c'est un management participatif, parce que ce qui est aussi différent des autres, c'est que nous, on a une direction collégiale. Il n'y a pas vraiment de patron. Globalement, la réalité, c'est que toutes les décisions sont prises ensemble.
Dans la cuisine, j'ai compris.
Dans la cuisine, voilà. Oui. C'est ça, c'est intuitif.
Comment est-ce que les belles-filles font pour trouver leur place?
Alors, d'abord, les belles-filles, elles ne travaillent pas. Elles ont une activité professionnelle qui est autre. C'est pour ça que c'est bien. Là, du coup, il n'y a pas de dynamitage possible et ça fonctionne très bien.
Et puis, il y a vos neveux.
Alors, il y a notre neveu, voilà. Il y a Virgile qui travaille pour nous depuis maintenant plusieurs années. Qui a fait une école de cinéma, lui.
C'est lui qui fait dans l'émission, on comprend, les plans avec les drones. C'est lui qui fait tous les films.
C'est ça, encore une pierre à l'édifice quand il est arrivé. C'est lui qui a introduit tout ce qui est mouvement, en fait, hein, tout ce qui est film. Parce que le mouvement, c'était notre stratégie dès le début. Et c'est vrai que le fait de faire des films systématiquement pour toutes les annonces, en fait, il a industrialisé ça, c'est extraordinaire. Hein, parce que c'est plus d'acquéreurs potentiels, c'est une meilleure image de marque. C'est que le mandant et le propriétaire est super content avec ce marketing. Et vous voyez, donc là aussi, encore une fois, c'est une pierre à l'édifice.
Ce qui est fédérateur aussi dans votre émission, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'elle touche toutes les générations. Et j'allais dire, quels que soient les revenus que les gens ont, à la fois des gens qui pourraient les acheter, des gens qui vont juste les regarder par plaisir, vos maisons ou vos biens. Ce qui est fédérateur aussi, c'est qu'il y a 4 générations. Il y a Majo, qui est la maman de Sandrine, qui est un élément pilier de la famille et qu'on voit aussi beaucoup dans l'émission. Vous êtes sur un modèle de société familiale qui était celui d'il y a 3 générations, c'est-à-dire la cohabitation des générations ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et qui est important pour l'équilibre.
C'est essentiel. Hein, vous savez, cette histoire transgénérationnelle, ça... ça date pas d'hier chez nous. On a toujours fait depuis le début avec nos enfants, même des fêtes transgénérationnelles. On faisait des fêtes avec nos enfants, avec les amis de nos enfants. On a toujours conçu la vie de cette manière. Et c'est vrai qu'après, on l'a reproduit sur le plan professionnel. Et c'est vrai que c'est ce qu'on montre dans la série. On est tellement content de partager ça avec tout le monde, parce que c'est un peu le bonheur absolu, hein, de pouvoir être entouré de ses enfants, de ses petits-enfants, et de vieillir et de grandir comme ça, parce que les petits ont besoin des grands, les grands ont besoin des petits. Les adultes ont besoin aussi de garder et un esprit d'enfant jusqu'à la fin de ses jours, parce que c'est vrai que s'amuser, c'est extrêmement important. Nous, on s'amuse beaucoup en travaillant.
C'est ce qu'on voit dans l'émission. Je pense que dans la vraie vie, vous vous amusez un peu moins.
Oui, mais on essaye de s'amuser un max, parce que c'est le plaisir. C'est le plaisir dans le travail, et donc c'est l'épanouissement, et donc a priori il va sortir du bon. Ça parle aux enfants, ça parle aux petits-enfants. Et
vous êtes en train de les picouser, les petits-enfants? Ils veulent aussi vendre des maisons?
Bah, les petits-enfants, on sait jamais, en tout cas ils sont bien baignés dedans.
Quelle place est la Majo pour vous?
C'est un peu la mascotte, c'est ce qu'on a raconté. Hein. C'est elle qui fait.
Elle a 90 ans, elle a incroyable de dynamisme, voilà.
Puis elle s'est révélée à travers cette histoire. Ce qui est génial, c'est que ça lui donne une nouvelle carrière.
Oui, parce qu'elle raconte dans le livre
qu'elle regrette de ne pas
avoir fait une carrière artistique.
C'est ça. Bah là, finalement, elle en démarre une.
C'est important d'avoir quelqu'un qui est une référence comme ça.
Oui,
aussi.
Bah, les aînés sont très importants. Hein. C'est eux qui ont vécu des choses dont elles sont la garante du souvenir, hein, de ce qui s'est passé, et même une période incroyable, hein, qu'elle raconte. J'espère qu'un jour on la revivra, hein, après la guerre, et tout ce qu'on pouvait faire, ce qu'on peut moins faire maintenant. Et donc c'est génial, parce que de parler avec elle, c'est vraiment super de pouvoir parler d'histoire. Ouais.
La prochaine saison, elle commence quand et ça se passe comment, un tournage de saison?
Alors la prochaine saison, la saison 5, va démarrer très prochainement. Donc le tournage s'échelonne sur plusieurs mois.
Alors nous, quand on voit c'est ramassé, on a l'impression que tout se passe en peu de temps, mais...
En fait, il faut quand même le temps du tournage, hein, parce que vous avez vu qu'on a...
Et puis la production.
La production, et puis vous avez vu qu'on est quand même aux quatre coins maintenant de la planète, qu'il y a beaucoup de... Il faut que, également, nos clients, enfin, que les gens soient disponibles, une disponibilité à la fois des équipes de production, déjà, hein.
Qui aussi tournent d'autres émissions.
Qui aussi tournent des émissions, donc c'est pour ça que ça s'échelonne sur plusieurs mois. Et puis aussi c'est notre vie, hein, donc voilà, donc on va capturer notre vie professionnelle et personnelle, donc voilà, donc tout ça prend beaucoup de temps, mais on va essayer de garder le rythme, c'est-à-dire une diffusion de la saison 5 fin d'année, début d'année prochaine.
Est-ce que c'est beaucoup scénarisé?
Est-ce que notre vie est scénarisée?
J'imagine que les ventes, elles se font pas toujours dans les délais. Là, on a l'impression que les délais, c'est des fois quelques semaines. J'imagine qu'il y a des ventes qui prennent plus de temps.
Dans ce qu'on filme, on voit une partie du processus. On voit pas une partie de tout le processus, parce que ça embêterait aussi les gens. Je dirais, si on allait dans le détail, c'est pas ce qui intéresse les gens. Et c'est vrai que de toute manière, dans l'immobilier, hein, quel que soit l'immobilier, ça prend entre minimum 3 mois, hein, entre le premier contact et la signature
rapide,
de l'acte.
Hein.
Ouais, donc c'est assez rapide. Il y a des ventes qui prennent, mais c'est un peu ça quand même. C'est un peu ce qu'on montre. Oui.
Chaque épisode réunit à peu près 800 000 téléspectateurs, je crois.
Oui.
Entre TMC et maintenant, vous êtes sur Netflix, donc ce qui donne encore une autre ouverture. Qu'est-ce que ça fait de devenir célèbre à 60 ans?
Alors, il faut garder les pieds sur terre. Bon, célèbre, faut, vous savez...
On vous reconnaît au-delà de votre quartier maintenant.
Oui, on nous reconnaît, on nous reconnaît même bien au-delà, parce que je sais que Valentin, on l'a reconnu au fin fond de la Mongolie. Et c'est vrai que quand on est à l'étranger, on nous reconnaît
aussi.
Donc c'est vrai que ça fait... On peut être fier de ça, hein, quelque part. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est hyper bienveillant, et c'est que tous les gens qui nous reconnaissent, ils nous félicitent. Et c'est que du positif. Donc c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais.
Ça veut dire que ça a bien touché le public.
Ça a touché, et puis certains nous disent, bah, c'était bien d'ailleurs les salons du livre qu'on a fait, les dédicaces, parce que là on a un contact direct avec les gens, avec le public, et ça c'était vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir peut-être que on a contribué dans certains cas à influencer les gens, à faire une carrière dans l'immobilier, ou au moins...
Vous avez déclenché des vocations.
À changer leur manière de faire, ou voilà. C'est peut-être qu'on a... ou à essayer de travailler en famille, voilà. C'est peut-être ça aussi qui est, je dirais, le résultat direct de cette série.
À quoi est-ce qu'il faut être vigilant? Parce que vous faites un métier où vous vendez des biens d'exception à des gens qui sont généralement plutôt discrets.
Oui.
La surexposition, ça peut paraître être exactement l'inverse.
Alors d'abord, il y a la surexposition il y a notre exposition à nous, de la famille. Mais après, il y a l'exposition de nos clients. Et les clients, bien entendu, on va garder ce qui fait le fondement de notre société, c'est la confidentialité, évidemment, de nos clients. S'ils veulent rester dans l'ombre, ils restent dans l'ombre. S'ils veulent s'afficher, ils s'affichent. Après, on fait du sur-mesure. Mais c'est vrai que plus on va dans le luxe, dans l'ultra-luxe, plus ça restera de toute manière toujours hyper confidentiel.
Il y en a que ça amuse ?
Il y en a que ça amuse beaucoup, oui. Il y a des gens qui rêvent qui rêvent de passer à l'écran. Et là, on leur ouvre une porte.
Parce que ça leur donne quand même un rôle. Enfin, il y a parfois les gens, ils sont un peu durs, donc.
Ouais, mais.
Ça, j'imagine que bon, il y en a qui ont des exigences naturellement, mais il y en a peut-être sur lesquels il faut forcer un peu le trait. Donc, ça donne quand même une image d'eux un peu particulière.
Oui, mais il y a des gens qui, encore une fois, qui rêvent de ça depuis qu'ils sont tout petits. Si un jour je pouvais passer devant l'écran, ce serait formidable. Puis là, on leur ouvre l'opportunité de le faire. Après, il y a d'autres motivations, hein. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ont énormément réussi, mais personne ne le sait. Et ils veulent le faire savoir. Et c'est vrai qu'à travers notre émission, bah, ils peuvent le faire. On peut prendre un exemple, hein, des architectes, des marchands de biens, enfin tout un tas de gens, ou même des gens qui sont dans la finance. Vous savez, des gens qui ont énormément réussi, mais personne ne le sait. C'est dommage. C'est des gens extrêmement brillants. Ben voilà, ça c'est aussi un besoin qui est marquant.
J'ai lu qu'il y avait 20% de vos transactions aujourd'hui qui étaient liées aux réseaux sociaux. C'est énorme. Il y a un épisode dans lequel on voit un appart qui est vendu face à la Tour Eiffel ou avec vue sur la Tour Eiffel, uniquement grâce à une visite sur Instagram. Ouais. C'est vrai ?
C'est une révolution, on peut dire, puisque il y a 2 ans, c'était 0% de nos ventes sur Instagram. Aujourd'hui, c'est 20%. Et ça commence aussi sur TikTok. Donc c'est phénoménal. Il y a véritablement un virage qui est en train de se prendre sur les réseaux sociaux, qui deviennent clés dans notre métier, parce qu'on peut... avec les réseaux, évidemment, communiquer de l'émotion, ce qu'on ne pouvait pas faire avec des portails d'annonces classiques. Et surtout, on peut communiquer du lifestyle, des styles de vie, parce que c'est aussi ce qu'achètent nos clients.
Ce qui est étonnant, c'est que souvent, c'est vendu meublé.
C'est vendu meublé parce qu'on se projette mieux dans un lieu meublé.
Parce que souvent, c'est fait sur mesure aussi.
Voilà, mais non, on se projette mieux dans un lieu meublé et même animé. Et vécu plutôt qu'un lieu vide.
Hein. Ah, ben vous allez mettre des petits chiens et des petits chats partout.
Et exactement. Et ça, c'est mon rêve. C'est de montrer, en fait, de plus en plus des biens animés. Et puisque les gens, on se projette beaucoup mieux dans un lieu animé. Donc voilà, il y a TikTok aussi, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est plus d'un milliard de...
TikTok, c'est tellement... Les formats sont tellement courts.
Mais les formats sont tellement courts. Mais si vous voulez, notre métier, en fait, est en train vraiment de se transformer. Parce qu'avant, on avait un ou deux canaux. Mais aujourd'hui... On a de multiples sources pour diffuser et on doit produire du contenu. Puisque vous avez Instagram, vous avez TikTok, vous avez YouTube, vous avez site internet, vous avez des nouveaux réseaux.
C'est des contenus qui peuvent se réutiliser selon...
Il faut produire un contenu brut et ensuite le raffiner pour le diffuser sur chacun des canaux. Et ça, c'est un nouveau métier extrêmement intéressant, mais qui bouleverse complètement... l'immobilier de luxe.
Mais c'est fou parce qu'on pourrait se dire quand on dépense plusieurs dizaines de millions d'euros pour acheter un bien, on a quand même envie de le voir en vrai, d'être dedans, de ressentir ce qu'on a quand on est dans une pièce, la vue, la lumière.
Ça n'empêche pas que de toute manière, une fois...
Le réseau social, c'est pour attirer, c'est pour attraper.
C'est pour attirer. Parce que vous savez, vous comme moi, on est hyper sollicité. Et donc, pour capter votre cerveau, il faut quelque chose de très puissant, très rapidement. C'est vrai. Et c'est là où le réseau social, c'est pour ça que le réseau social fonctionne bien.
Ça vous arrive de refuser de travailler avec des clients qui achètent ou qui vendent ?
Bien sûr, c'est la sélection en amont. Alors, il faut savoir que nous, notre métier, on n'est payé qu'à la fin. C'est une particularité, il ne faut pas l'oublier dans l'immobilier. Vous pouvez travailler énormément sans jamais être payé. D'où l'importance de sélectionner en amont les clients avec lesquels vous avez... il est intéressant de travailler. Alors, concrètement... Qu'est-ce qui peut se passer ? Un prix trop cher. Voilà, un propriétaire qui veut mettre son bien en vente, mais manifestement, il n'est pas au prix du marché. Donc, on va lui conseiller, on va lui dire que c'est trop cher et que malheureusement, on ne va pas pouvoir s'en occuper. Ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie, de la communication si le prix est trop cher, il ne partira jamais. Ça peut être un exemple. Vous avez des biens qu'il faut rénover avant de mettre en vente. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément des refus, mais c'est une manière de reporter le projet à plus tard pour que le bien arrive dans les meilleures conditions du marché, voilà, afin de trouver l'acquéreur. En fait, c'est simple. Donc en fait, notre rôle, il évolue vers un rôle de conseil.
J'ai quelques petites questions pour terminer. Enfant, vous rêviez de faire quel métier ?
J'avais vraiment aucune idée. Et franchement, quand je vous le dis, même il y a même plus que... je me souviens même quand je suis sorti de mon école à Subdocourmont, 83, je ne savais toujours pas quoi faire. Vous vous rendez compte ? Donc là, je dirais aux jeunes, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est au fur et à mesure de notre vie que finalement, on se forge et on se fait une idée de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on n'a pas envie de faire dans le futur. Et c'est au gré des opportunités qui se présentent et qu'on prend que au fur et à mesure, on se dit, bah là, on est bon, là, on est moins bon, là, j'ai du plaisir, là, j'ai moins de plaisir. Et puis, au fur et à mesure que la vie avance, bah voilà, vos ambitions.
Faire, ouais, on peut essayer, et puis on peut aussi avoir des échecs.
On peut essayer, on peut avoir des échecs, on peut recommencer, on peut changer de métier plusieurs fois, c'est mon cas, de marché. Et d'ailleurs, j'incite tous les jeunes à changer de marché. C'est extrêmement intéressant de changer de marché parce que ça permet de se remettre en question. Moi, j'ai changé au moins 4 ou 5 fois de marché dans ma vie et ça demande de remettre tes compteurs à zéro à chaque fois et de se remettre en question. Et ça, c'est vraiment génial.
Est-ce que les maisons ont une âme ?
Les maisons ont toute une âme puisqu'elles sont habitées depuis longtemps par des gens qui ont une histoire et qui ont imprégné les lieux de leur histoire. Avec leurs enfants, leurs amis, leur bonheur, leur malheur. Et donc, évidemment, qu'il y a une énorme histoire et donc ce qu'on appelle les vibes, les vibrations. Et ça, on le sent très bien. Nous, on le sent en tant qu'agent, en tant que famille, et nos clients le sentent très bien. Et ça, c'est vraiment un élément dont on ne parle jamais, qui ne peut pas être modélisé. Mais et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant, ce métier, parce que je pense qu'il perdurera longtemps et qui est extrêmement important.
C'est-à-dire ouais. qu'il s'est trouvé la bonne maison avec les bonnes vibrations,
ouais.
qui correspondent aux vibrations que les clients
voilà.
attendent.
Et puis surtout dans une maison dans laquelle on va être heureux.
On peut transformer des lieux qui ont été malheureux en lieux qui deviennent heureux ?
Oui. C'est possible.
Votre maison, par exemple, elle a une histoire incroyable. Malraux habitait dedans, il y a eu les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un attentat qui avait visé Malraux.
Il y a eu des bonheurs, il y a eu des malheurs dans cette maison, puisque Malraux a perdu ses deux enfants. Il était locataire, il n'était pas propriétaire. Il y a eu plein de bonheurs aussi, avec les renards. On peut changer, oui, on peut. Après, c'est à nous de créer une histoire. Mais quand on s'appuie sur ça, c'est vrai que cette maison, moi, personnellement, elle m'a énormément influencé. Et je pense que les vibes étaient là et font partie évidemment des résultats d'aujourd'hui. Je pense que cette maison a été extrêmement importante. Ouais.
Vous dites la maison ou vous dites le bureau ?
Non, je dis la maison. C'est une maison ici. Ça restera une maison. Le mot bureau, j'aime pas trop.
Ça rappelle
déjà le mot bureau égale non.
Contrainte.
C'est une maison. C'est une maison. Ouais.
Ça vient d'où cette passion pour le kitesurf ?
Voilà. Alors, avec la mer, j'ai une histoire qui est très très lointaine, hein, puisque ça a démarré sur un optimiste. Quand j'avais 7 ans, on m'avait lâché dans une mer un peu démontée. Et puis après, j'ai jamais quitté cette passion de la mer avec les dériveurs et la planche à voile pendant 20 ans. Et il y a 20 ans, j'ai découvert le kite. J'étais un des premiers en France et c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai vu que ça allait changer beaucoup de choses, que c'était encore une fois qu'une révolution qui allait arriver. Et c'est vrai que je m'y suis mis et c'était complètement addictif très vite. Et après, j'ai transmis cette addiction à mes enfants et puis à de nombreuses personnes, de nombreux amis, de nombreuses... Et c'est vrai que ma vie a été un peu dirigée autour de ça. Après, il y a le Brésil, comme je raconte dans le livre, mais plein d'autres choses. Et c'est vrai que le kite, j'en ai encore fait hier, vous voyez. Dans une mer démontée, on était 3. C'est vrai que c'est vraiment un endroit où vous jouez avec les éléments, en fait. Vous jouez véritablement avec les éléments qui sont plus forts que vous, mais c'est un échappatoire incroyable.
Et ce qui est amusant, c'est que cette sensation que vous avez eue quand le kite est arrivé, de dire « ça, c'est quelque chose qui va marcher », vous avez cette espèce de radar qui vous permet de détecter avant qu'une tendance devienne quelque chose de sérieux, ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Ça, c'est hyper utile aussi. Ça ne se travaille pas, ça.
J'ai de la chance. Je sens ça à l'avance. C'est inné en moi, j'ai de la chance. Hein.
C'est de l'intuition ou c'est que votre cerveau analyse plein de trucs et qui rentre
dedans ? Je l'analyse et je l'expérimente pour moi-même. Et puis après, naturellement, quand ça revient, je me dis, c'est la bonne drogue.
C'est quoi ces histoires de gong, de balançoire et de table sur laquelle vous travaillez, vous mangez, vous faites tout? Ça, c'est presque des personnages dans la série.
Alors d'abord, la balançoire est arrivée en premier.
C'est oui, vrai. Parce que alors...
C'est vrai que Raphaël, on voulait une balançoire, parce que à Meudon, dans notre ancienne maison, on avait une balançoire.
Vous aviez un jardin et une balançoire.
Ouais.
Ici, vous avez un premier et un deuxième étage,
voilà.
Donc pas de jardin.
Voilà, et donc du coup, on a mis la balançoire dans le salon.
Au milieu du salon.
Au milieu. Et puis, ça s'est avéré super, voilà. Je suis balance, vous savez, comme...
Oui,
c'est
ce que je comprends.
Et c'est vrai que sur la balançoire, je pèse le pour et le contre. Puis après, vous avez vu, c'est devenu un code. À chaque fois qu'on a un nouvel agent, on prend photo avec nous derrière la balançoire. Donc c'est devenu, voilà, c'est devenu...
C'est dans ça que je dis que c'est presque un personnage.
Une marque de fabrique,
ouais.
Voilà. Le gong, c'est autre chose. On a fait plusieurs voyages en Asie avec Sandrine. Et c'est vrai que ce qui était important dans le gong, c'est de marquer le résultat d'un effort collectif. Le résultat d'un effort collectif, parce que comme c'est quand même assez long et épuisant, une vente, et qu'il y a des étapes, et c'est vrai que la première étape, c'était une offre. Vous recevez une offre, c'est le premier résultat, en fait, de tout ce qu'on a fait en avant. Et c'est pour ça qu'on a acheté le gong, et on s'est dit, tiens, à chaque fois qu'il y a une offre, on va taper sur le gong, ça va nous donner le moral.
Motiver, ouais.
Et puis voilà, puis ça a pris.
Qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on réalise une vente, sa première vente?
Je m'en souviens très bien de cette première vente. Ah, on était sur un nuage. Ah, on était vraiment, vraiment sur un nuage. Là. C'était avec Sandrine, une maison à Boulogne, je me souviens très bien. Plus des gens hyper gentils, très sympathiques. On s'est dit, ça y est, ça a démarré. Vous savez, tant que vous n'avez pas vendu le premier, ça y est, ça a démarré, ça résonne encore dans ma tête. Et ça y est, on s'est dit, ça y est, c'est gagné. En gros, on n'a fait qu'une vente, mais en tout cas, on a réussi à en faire une. Et c'était génial. C'était vraiment... quel bonheur encore, quand je m'en souviens, c'est peut-être la meilleure d'ailleurs.
C'est ce que j'allais vous demander, c'est un bonheur qu'on ne retrouve pas à chaque vente?
Je pense que chaque personne dans ce métier qui fait une vente éprouve un bonheur, parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps, il a partagé des choses avec ses clients, c'est le résultat d'un processus long, douloureux. Si, je pense qu'il y a un bonheur à chaque vente. C'est ça qui est beau dans ce métier, ouais. Il n'y a pas d'usure. Il y a un bonheur à chaque vente, ouais.
Vous avez des clients qui viennent vous voir systématiquement quand ils achètent et quand ils vendent?
Bah, ils viennent nous voir, ou alors on les a par visio, oui, bien sûr.
Donc vous avez un fonds de catalogue fidèle de gens qui adorent vendre ou qui adorent acheter?
On a des gens qui sont des aficionados de l'immobilier, hein, qui ne font ça toute leur vie. Hein. Vous avez des gens qui déménagent 15 fois. Hein.
Donc vous avez des clients que vous avez déjà accompagnés 15 fois?
Bah, bien sûr, et puis il y a des biens qu'on a revendus 3 ou 4 fois. C'est ça qui est incroyable,
c'est
vous rendez compte.
Le plus permanent dans le bien,
oui.
c'est le
on connaît, mieux l'histoire que les gens qui vont l'acheter, parce qui y habitent, parce qu'on connaissait les prédécesseurs, on leur a vendu.
Est-ce que vous doutez souvent? Vous dites, vous êtes balance, alors je sais que c'est une importance dans la famille, l'astrologie. Tout le monde vous reproche d'ailleurs de prendre des décisions un coup dans un sens, un coup dans l'autre.
C'est ça.
Est-ce que vous doutez beaucoup?
Je doute.
Mais vous doutez par nature ou par superstition?
Par nature.
C'est l'enfer pour les autres, ça.
Ouais, c'est l'enfer.
Et qu'est-ce que vous faites pour vous soigner?
Il n'y a pas grand-chose à mon âge.
Mais parce que c'est quoi? Vous avez besoin d'être rassuré? Vous avez besoin
J'ai besoin de me rassurer. Et ça prend du temps.
Et ça donne les réunions dans la cuisine.
Ça donne les réunions, les confrontations avec la famille. Ça donne, voilà, y en a, les jeunes, ils veulent aller plus vite, moi moins vite. Voilà, je sais qu'une décision, c'est impactant. Il y a beaucoup de conséquences à moyen et long terme. C'est souvent de l'argent au début, quand on prend une décision. Voilà, donc, j'ai besoin d'être rassuré. Ouais, je suis un peu comme Saint Thomas.
Il y a une expression dans le livre que vos fils vous attribuent. Et qui, paraît-il, lorsque vous l'avez sorti, les a fait écrouler de rire, parce que vous l'avez dit devant leurs copains, c'est « on pompe et un jour ça sort ».
C'est ça, c'est exactement ça.
C'est pour expliquer comment est-ce qu'on fait quand on commence son business, en
quand
fait.
On démarre, quand on démarre, quand on démarre un business, voilà, on n'a pas de clients. Je me souviens, on prend tout ce qui arrive autour de vous, vous dépensez une énergie monstrueuse, vous essayez tout, et puis un jour, il y a quelque chose qui va sortir, voilà, c'est une histoire. C'est marrant parce que quand j'étais petit, on avait une maison de campagne avec une pompe à eau, et j'ai encore ce souvenir à l'époque qu'il n'y avait pas de robinet à l'extérieur, et on pompait, et je me souviens très bien, je pompais, il faisait très très chaud, c'était en plein été, et c'était vraiment cette image-là. Avant de sortir les premières gouttes d'eau. Et puis après, il y avait moins besoin d'énergie et l'eau arrivait par magie. Voilà.
C'est quoi un visionnaire ascendant pessimiste?
Ah, c'est pas mal, ça me qualifie pas mal, ça.
Je sais pas, c'est écrit dans votre livre.
Ouais.
Je crois que c'est Sandrine qui le dit, votre épouse.
Un visionnaire, à l'ascendant pessimiste, c'est ça, c'est vrai. Ce que, en fait, ce que je me dis aussi, c'est qu'on a la majorité des gens pensent que ça va marcher. On voit que les plus. Mais ce qui est compliqué, c'est de voir les moins. Donc, je préfère commencer à voir les moins.
Du coup, il faut vous ultra-convaincre.
Voilà. Plus je vois les moins, plus je travaille sur les moins, plus après, ce sera facile. Parce que les plus, ils sont évidents. Par contre, les moins... Non, mais vous comprenez ? Donc, j'ai réinverse ma réflexion. Les moins, c'est les risques, c'est les menaces. Pourquoi je n'y arriverai pas ? Et quand on a travaillé à fond là-dessus, après, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que j'ai l'impression que les gens ont l'impression que je suis pessimiste.
J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une chanson ou un air de musique qui vous accompagne ?
Évidemment, tout ce qui est brésilien, ça me met immédiatement de bonne humeur. La samba.
Merci à Éric Mauban du service économie de Radio Classique de m'avoir confié le numéro d'Olivier Kretz et pour tous les autres numéros qu'il me donne depuis des années. Merci aussi à la fan absolue de l'émission, Béatrice Modine, qui s'occupe de l'info sur le site de la radio. Et merci également à Lucille Cousin pour tout le reste. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.